Grève tournante se poursuit aujourd'hui à Poste Canada autour des employés de Moncton et de Victoria de faire pression sur Poste Canada qui a rejeté hier la dernière proposition syndicale. Le service postal affirme faire face à une baisse des volumes du courrier de 17 % depuis 2006 et à une concurrence accrue. Il faut faire face aux nouveaux défis auxquels est confrontée la société, comme le remplacement du courrier traditionnel par des moyens électroniques. Youri Chassin, économiste à l'Institut économique de Montréal, est avec nous pour en discuter. Bonjour.
Bonjour.
Comment on peut revoir notre système de poste national pour le rendre plus efficace, selon vous?
Eh bien, en fait, à l'Institut économique de Montréal, on a concocté une petite étude, là, il y a un peu plus d'un mois, pour suggérer des pistes de solutions, justement, parce qu'effectivement, Poste Canada fait face à de nombreux défis, que ce soit le déclin du courrier, comme vous le soulignez, même des problèmes internes, un problème de productivité, une nécessité de moderniser, d'entretenir ces machines, ces bâtiments. Et face à ces problèmes-là, en fait, on a regardé un peu ce qui se faisait ailleurs. Et en Europe en particulier, il y a vraiment une tendance à la libéralisation du marché postal, c'est-à-dire de permettre, dans le fond, la concurrence dans la livraison de services postaux. Et même pour certains pays, une privatisation, donc des monopoles publics, là. Par exemple, une privatisation de Poste Canada ici. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment un avantage intéressant pour le consommateur, puisque le prix du timbre est en diminution dans plusieurs pays, notamment en Allemagne, jusqu'à 17 % en fait, et au contraire, ici, là, on subit une hausse du prix du timbre. Donc, peut-être que les négociations à l'heure actuelle illustrent le malaise plus profond du modèle actuel, du monopole public pour les lettres là, de moins de 500 grammes. Il serait peut-être temps de voir si, effectivement, d'autres modèles pourraient être plus pertinents.
Mais est-ce qu'il y a vraiment consensus sur la place du privé partout dans le monde, même s'il y a des études qui le disent? Parce qu'on entend souvent dire qu'il va y avoir quand même des retards dans l'envoi du courrier, qu'il y a plusieurs compagnies qui vont envoyer les lettres et donc ça n'arrivera jamais en même temps. Là, est-ce que c'est plus efficace, un système privé?
Exactement. En fait, c'est plus efficace avec la présence du privé, avec la présence de concurrents d'abord. On le voit, c'est déjà le cas, par exemple, pour la livraison de colis au Canada. Donc, il y a Purolator qui appartient à Poste Canada, il y a aussi FedEx, il y a aussi UPS, il y a d'autres compagnies qui desservent aussi les clients qui sont intéressés. Et idéalement, en fait, la privatisation apporte aussi cette nécessité d'améliorer ses façons de faire, d'être constamment à l'avant-garde et d'innover. Et en fait, au contraire, en Europe, les taux de satisfaction des clients augmentent. On a vu ça, entre autres, aux Pays-Bas, en Suède. On a vu aussi que les délais de livraison étaient plus courts. Donc, au contraire, il y a vraiment, effectivement, que des avantages en Europe dans cette direction-là.
Toutes ces solutions de restructuration, ça augure rien de bon pour les employés de Poste Canada?
En fait, pour les employés de Poste Canada, c'est peut-être difficile à envisager comme modèle parce que c'est vraiment un grand changement, mais ça peut être au contraire très intéressant. En fait, je vous explique, dans le marché postal, quand il y a la concurrence, il y a des nouveaux joueurs qui rentrent et qui s'installent et qui ont besoin eux-mêmes, par exemple, de facteurs expérimentés, d'employés. Et dans ce cas-là, on va chercher à employer des gens qui ont peut-être déjà d'expérience. Donc, pour les employés actuels de Poste Canada, il y aurait de nouvelles opportunités d'embauche.
Est-ce que d'abolir complètement Poste Canada pourrait être une solution?
Abolir complètement Poste Canada, ce serait un peu étonnant, en fait, parce qu'il y a évidemment tout un ensemble d'actifs. On parle, par exemple, d'un réseau de 6500 bureaux de poste à travers le pays. Donc, de se départir de ces actifs-là, ce serait peut-être plus intéressant de les vendre à des investisseurs privés qui seraient, eux, prêts à reprendre Poste Canada pour l'opérer comme entreprise. Évidemment, de se départir de Poste Canada, ça amène aussi des revenus au gouvernement fédéral, par exemple. Donc, ça serait vraiment une voie privilégiée. Et on pourrait même penser, par exemple, de privatiser Poste Canada en deux temps. Et le premier temps serait, par exemple, d'intéresser les employés actuels en leur versant à eux des actions. Donc, s'il y a une amélioration de la productivité, de la rentabilité de Poste Canada, ils y seraient intéressés non seulement comme employés, mais aussi comme actionnaires. Mm-hmm. Et ça peut être peut-être une mesure qui facilite pour les employés la transition vers un modèle plus compétitif.
Ouais. Pour l'instant, plus le conflit traîne et plus les chances de voir le gouvernement s'en mêler sont fortes. Pour l'instant, il n'y a pas eu de sortie vraiment de la part du gouvernement. Selon vous, est-ce que le gouvernement pourrait s'en mêler si jamais le conflit s'étire?
Ben effectivement, en fait, nous, on croit que c'est une bonne solution et on milite sur cette base-là là, pour y réfléchir et engager le débat. On a vu hier ici un conservateur bien connu, Michael Fortier, au Québec, qui, en commentant le budget à Radio-Canada, évoquait la possibilité de privatiser Post-Canada. Donc, on sent peut-être là, que cette idée gagne en momentum, en quelque sorte. Et puis, quant à nous, vraiment, les consommateurs canadiens y gagneraient et les entreprises aussi, qui sont des grandes utilisatrices du courrier, y gagneraient aussi.
Mmh. Youri Chassin, économiste à l'Institut économique de Montréal. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne journée.